Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je remonte dans mes souvenirs et j'oublie de préciser que pendant qu'ils s'égrènent, mon image et mon identité changent. Mes premiers temps au phare, où me traîne une amie, je suis une sorte d'adolescent androgyne hippie, de vêtements, à qui souvent on dit madame dans la rue et au téléphone. Depuis mes 14 ans, je mène une guerre avec mes parents pour avoir les cheveux les plus longs possibles. Les Beatles m'aident. À 14 ans, je vais au lycée poudré et tire sur mes pulls pour en faire des tuniques de beatnikes. La lecture de Notre-Dame des Fleurs m'a changé à jamais. Je suis la scandaleuse du lycée, les fachos me poursuivent pour me couper les cheveux, les gauchistes me trouvent compromettante, mais apprécient mes réparties lors des confrontations avec les FAF. Au phare, je vais vite extérioriser et surjouer la folle hurlante. Mais avec Michel, je reste relativement sage. Et peu à peu, la féminité de jouer devient réelle. Je supporte de moins en moins de me changer, de me démaquiller dans les ascenseurs. Une nuit, je décide d'adopter un nouveau prénom. J'ai retrouvé la feuille où je m'essaie à une signature. Beaucoup dans ce phare agonisant voient cette mutation d'un mauvais œil. Françoise Daubonne me met en garde contre le cancer des seins dû aux hormones. Nous plaisantons entre nous sur le rouge à lèvres qui cause le cancer de la bouche et le talon aiguille qui cause le cancer de la cambrure du pied. Michel ne dit rien. Il se travestit de temps en temps et je trouve qu'il a une classe à la Lorraine Bacall en tailleur 40 et mèche ravageuse. Ainsi écrit Hélène Azéra, journaliste bien connue, dans un très bel article de la revue Minorité qu'elle consacre à Michel Cressol. Ainsi s'opère sa transformation à une époque et dans un milieu d'artistes, d'écrivains, de journalistes qui la rendent à peu près possible, acceptable. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, l'histoire de Patricia, elle, se déroule dans le secteur de la métallurgie, au cœur de la région Rhône-Alpes. Et il faut bien dire que la métallurgie n'est pas exactement connue pour ses folles hurlantes, pour reprendre l'expression d'Hélène Azéra. Et comme on l'entend, tout de suite, dans ce Pied sur Terre spécial Leïla Djitli, j'étais un homme parfait.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
J'ai un parcours très classique pour un garçon, très formalisé, voire imposé par mon père. Donc un enseignement technique pur jus. Ensuite, un service militaire dans la marine très technique. Et ensuite, une carrière dans une entreprise de la métallurgie. Je suis rentré en 1997 dans cette entreprise, j'étais directeur industriel pendant 17 ans, j'étais ensuite directeur général pendant près de 10 ans, donc numéro 2 de l'entreprise. Je me suis occupé du marché chinois, donc je me suis investi, mais totalement dans cette entreprise, avec une volonté qui m'avait été promise de racheter cette entreprise, ou en tout cas de la diriger complètement dans le futur. En parallèle, je me suis marié, j'ai eu mon premier garçon en 1997, ensuite ma fille en 98 et le petit dernier en 2001. En bon père de famille, j'ai dirigé cette entreprise avec mon épouse à la maison et comme on dit vulgairement, comme on résume, j'avais une belle femme, une belle voiture, un bon job, un bon salaire. Donc, si vous voulez, je répondais aux critères de l'homme parfait, du mari parfait, du couple idéal, du patron pas si mal que ça, peut-être pas parfait, mais jusque dans les années 2008, jusqu'à le passage des 40 ans. Donc à partir de 40 ans, il y a eu une destruction des piliers de ma vie qui est apparue. Quand j'ai découvert que ma femme avait d'autres relations, et en particulier avec des copains qui profitaient de mes séjours en Chine pour s'occuper de ma femme. Et puis je m'étais investi à fond dans ma vie professionnelle. Et à l'arrivée, je me retrouvais trompé par mon PDG, donc propriétaire, qui n'a plus souhaité me vendre l'entreprise, mais a souhaité la vendre au plus offrant. et donc je me suis retrouvé dans une situation où je n'avais plus les moyens de pouvoir racheter cette entreprise. Donc je n'ai plus vu d'avenir professionnel et j'ai vu mon couple se fissurer. Et là, ma vie s'est écroulée. Parce que tout ce en quoi je croyais, la fidélité, le couple, le travail, tout ça est apparu comme une grande supercherie et comme une tromperie de la vie en général. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, t'as 42 ans, tu es à la moitié de ta vie, vis ta vie et essaye d'être heureux sur ce que tu crois. Et c'est là que j'ai pris cette décision terrible de dire, eh ben, Jean va mourir et Patricia va naître. Je suis rentré chez moi, c'était un soir d'été, c'était en mai-juin 2008, et je me suis dit, on arrête. On arrête la supercherie, on arrête le scénario, on arrête le film. J'ai décidé de devenir un être humain libre. Et j'ai pris cette décision de devenir une femme. Je ne veux plus être Jean, je veux devenir Patricia. Et c'est là que, au plus profond de moi-même, que Patricia s'est réveillée de manière très brutale. Ça a été un rêve pour moi toute ma vie, mais surtout une interdiction. Et à 42 ans, je me suis dit, je vais violer l'interdit, je vais transgresser tout ce pour quoi j'ai été formaté. Et la première personne qui a été mise au courant, ça a été mon épouse. Je n'ai jamais pu assumer et mon corps d'homme, et mon rôle social d'homme, et encore moins mon rôle sexuel d'homme. Mais rien que de dire ça, c'est terrible. C'est terrible, parce que là, il faut le dire à la personne que quelque part, vous aimez quand même. Moi, j'ai aimé ma femme. Je ne l'ai pas aimée avec ma quéquette, je l'ai aimée avec mon cœur, je l'ai aimée en tant qu'être humain, profondément, même si c'est sûrement la personne qui m'a le plus fait souffrir, mais j'ai quand même aimé cette personne, et il a fallu comme que je lui dise. Et le soir, avant de s'endormir, je me suis mis la tête sous le polochon et je me suis mis à pleurer, à hurler. Je lui dis, écoute, j'ai quelque chose de terrible à te dire, quoi. Je ne veux plus être un homme, je veux devenir une femme. Et curieusement, elle a plutôt bien pris la chose sur le plan comportemental. Mais à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais fait l'amour. Je n'ai plus jamais eu d'érection. Et je me suis auto-castré avec elle à partir de ce moment-là. J'ai joué le rôle d'un petit garçon qui a avoué une grosse bêtise à sa maîtresse. En décembre 2008, je suis allé voir mon médecin traitant, qui est un ami. Je me suis effondré en larmes dans son cabinet et je lui dis, écoute, aide-moi à devenir une femme, je n'en peux plus. Il m'a dit, bon, je ne peux rien faire pour toi, mais je connais des gens qui peuvent t'aider. Et c'est à partir de là que le processus se met en route. Et j'ai été pris en charge par une équipe que je ne connaissais pas du tout, mais qui, avec du recul, m'a beaucoup aidé, qui est le Grétis à Lyon. Le Grétis, groupe de recherche et d'études sur les troubles de l'identité sexuelle. Donc j'ai contacté ces gens-là, une cellule qui est très bien structurée, et c'est là qu'on se rend compte qu'en France, il y a des gens qui sont payés par collectivité pour vous aider à changer de sexe. Vive la France, vive la République, parce que ça, c'est pas du tout donné à tout le monde. Je m'étais renseigné un petit peu, c'est des hormones sur Internet, c'est des opérations à l'étranger, ce sont des prises en charge inexistantes, c'est la prostitution, c'est le trottoir, c'est l'abandon, ce sont les licenciements. C'est ça que j'avais l'image, moi, de la transsexualité. Par contre, le parcours devient le parcours du combattant, parce que les hormones, c'est bien gentil, l'opération, c'est bien gentil, mais avant, il y a comme une épreuve psychiatrique. Parce que je vais parler un tout petit peu vulgairement, mais quand c'est démonté, quand c'est coupé, c'est terminé. Ça se recolle pas. Et j'ai été suivi par deux psychiatres, un psychologue et un psychanalyste. Tous les psys quelque chose, je les connais. Pendant un an, quand vous allez voir ces gens-là, la première fois que vous allez voir un psy, vous vous dites « Mais je suis marteau. Je suis fou. Je veux être une femme. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Ça m'a permis de faire un travail sur moi. Pourquoi j'étais comme ça? J'ai demandé à ma mère, il y a très très longtemps, quand j'avais 5-6 ans, à quoi ressemblait une petite fille. Parce que j'ai un frère, mais j'ai pas de sœur. Ma mère m'a montré un petit bébé, une petite fille qui avait quelques mois, au moment où on changeait sa couche. Et je me suis dit, c'est quand même plus joli que ce que je suis, et surtout, c'est propre. Il y a rien. Il y a rien, c'est propre. Et j'ai cette vision que l'homme, par défaut, donc, ne l'est pas. Et moi, je trouvais que, excusez-moi, une quéquette, c'est pas joli, ça pendouille, certes, de temps en temps, c'est pratique, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai ce truc entre les jambes qui pendouille? Tout doucement, j'ai évolué, l'adolescence s'est mise en place, la puberté a fait son travail, mais à cette puberté, mes copains avaient qu'une seule envie, c'est de ploter les jeunes filles, de leur mettre une main aux fesses, et moi j'avais qu'une seule envie, c'est d'être comme elles. C'est d'être belle comme les filles de 14 ans, d'être habillée comme elles, et de séduire comme une jeune femme. Et moi je ne séduisais pas, j'ai jamais eu de copine, on m'a jamais draguée. Et il fallait que je joue ce rôle de garçon, il fallait que je joue ce rôle d'homme. Alors de temps en temps j'essayais de draguer, mais j'y arrivais pas, je prenais des vestes, parce que vu la manière dont je m'y prenais, je pense que ça devait faire rire tout le monde. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais que je ne comprenais pas. Sachant que je n'ai jamais été attiré par les hommes. Je n'ai jamais été homosexuel. Donc je me suis rendu compte que la souffrance qui s'est mise en place, c'est d'être jaloux des femmes. Et j'ai vécu pendant des années jaloux des femmes. J'étais jaloux de ma propre épouse. Je me suis toujours travesti. J'ai toujours piqué les vêtements de ma mère. J'ai toujours piqué ceux de ma grand-mère, parce que ma grand-mère était jeune à un moment aussi, il ne faut pas l'oublier. Et j'ai toujours vécu dans me créer une image de femme, en me disant toujours, tu ne seras jamais ça, parce que tout simplement, ce n'est pas possible. Je ne savais même pas que la transsexualité existait. En plus, j'ai vécu dans un milieu où il ne fallait pas être arabe, il fallait pas être homo, il fallait pas être travesti, transsexuel, c'était même pas prononçable. Donc il fallait être gaulois blanc et il n'y avait pas d'autre avenir. Donc moi, j'ai toujours joué la comédie pour que rien ne transpire, rien ne soit apparent, et auprès de mes parents, et auprès de mon frère, auprès de mon épouse et de mes enfants. Et chaque fois, je l'ai fait pour dire à tout le monde, je suis quelqu'un de normal, voyons. Personne ne s'est rendu compte de rien. J'ai commencé mon traitement hormonal début 2010, lorsque le Grétis m'a donné l'autorisation. Et le traitement hormonal, il n'y a pas de miracle, on ne devient pas Cendrillon du jour au lendemain. Le traitement hormonal met 18 mois pour vraiment opérer des changements qu'on peut considérer apparents sur le physique. J'ai commencé à me faire pousser les cheveux, et surtout j'ai commencé à partir de début 2010 à voir comment j'informe mes collaborateurs avec qui j'avais une relation extrêmement proche. Donc c'est majoritairement le monde ouvrier, c'est la métallurgie, et donc je les ai tous pris par petits groupes de 10 en salle de réunion, et ça commençait par « j'ai un truc à vous dire ». Ils savaient pas. Il y avait des bruits qui couraient, parce qu'ils avaient su que j'avais divorcé, ils voyaient bien que mes traits étaient devenus, j'avais plus de barbe, j'avais maigri, donc ils voyaient quand même qu'il y avait quelque chose qui se passait, et qu'il y avait des évolutions physiques, mais tout était mis sur le dos du divorce. Il va pas bien, il est vraiment en déprime, il va nous dire qu'il a un cancer et qu'il est en phase terminale, un truc comme ça. Donc il s'attendait à ça. Et puis j'ai commencé cette réunion par ben, merci pour votre présence. J'ai quelque chose à vous dire. Je souffre depuis 40 et quelques années. Je suis mal dans ma peau. J'ai toujours voulu être une femme. Et j'ai pris ma décision. Et je vais devenir une femme. Je vais devenir Patricia. Ça va se faire dans quelques mois. Je vous promets que ça jette un froid. Hein. Et là, les gens deviennent un peu blancs. Ils regardent tous leurs chaussures parce que c'est un sujet auquel ils ne s'attendent pas. Ils ne sont pas du tout à l'aise. Et les questions que j'ai eues le plus, c'est bah, comment ça se passe ? Est-ce que tu vas quitter l'entreprise ? Est-ce que tu vas rester avec nous ? Etc. Et une bonne majorité, en sortie de l'entreprise, sont restés discuter avec moi. Et certains m'ont dit franchement, ils m'ont dit « Compte sur nous. Nous, on va t'aider. » Et puis, mi-2011, j'ai attendu les grandes vacances de monter à Paris pour faire reprendre quelques traits de mon visage, pour féminiser mon visage, mon nez, l'implantation des cheveux. Et j'ai changé donc brutalement et je suis venu travailler au mois d'août, encore avec les bleus de l'opération, en femme. Et je suis allé faire mon petit tour et je suis allé voir tous ceux qui étaient présents au mois d'août. Et j'ai eu un accueil chaleureux et bah, finalement, ça ne va pas mal. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un soutien de mes collaborateurs qui a été exceptionnel et que je pense qu'aucun patron ne peut connaître. Et j'ai eu beaucoup plus d'affection avec mes collaborateurs du monde ouvrier, avec mes ouvriers, qu'avec les cadres, qui sont restés dans des préjugés stériles, des stéréotypes, excusez-moi, idiots. Moi, j'avais besoin de continuer à travailler avec tous mes collaborateurs, avec ma secrétaire, avec mes opérateurs, avec tout le monde. Donc, je suis allé voir mon patron et il m'a dit, bah, écoute, à partir de maintenant, je te retire tout ce qui est commercial. Tu n'iras plus jamais voir les clients. Au revoir, bonne journée. Et là, j'ai commencé à me rendre compte de ce que c'est que la transphobie. On commençait tout doucement à me retirer mes responsabilités. On m'invitait de moins en moins en réunion. On m'invitait une fois sur deux. Après, c'était plus qu'une fois sur trois, etc. Donc, une lente mise à l'écart, mais de manière très subtile, très organisée et pas du tout violente. De manière à ce que je ne puisse pas aller au prud'homme, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, l'horreur n'est montée que crescendo. Jusqu'en 2012, j'ai vécu 3 ans, mais de mise à l'écart d'une violence psychologique extrême. Jusqu'à proposition de rupture conventionnelle. Et j'ai été licencié de manière brutale en décembre 2012, après des tentatives multiples de rupture à l'amiable que j'ai toujours refusées. Et le jour de mon licenciement, tous mes ouvriers ont débrayé quasiment une heure et m'ont tous accompagné à droite, à gauche, en fil, de mon bureau à ma voiture, pour me soutenir et pour vraiment montrer qui faisait corps avec moi. Acte d'amour. Et mes ouvriers m'ont sauvé la vie. Grâce à mon avocat, qui est un ami que je connaissais depuis longtemps, dès que j'ai été licencié, bon, dès mon entretien, donc on a saisi le tribunal des prud'hommes, la machine juridique s'est mise en route jusqu'à une décision qui est tombée donc en octobre 2015. Donc l'entreprise a perdu au prud'homme, elle a été condamnée très sévèrement, ils n'ont même pas osé faire appel. Alors aujourd'hui, je suis consultante, je travaille donc pour des dirigeants. Je continue à travailler pour les entreprises et j'accompagne des dirigeants pour être, on va dire, encore plus performants dans l'entreprise. Et ça marche.
Ça commence de mémoire en peut-être 2008. Je m'appelle Pierre Robillard, je suis avocat depuis 16 ans maintenant. Je fais pas mal de sport par ailleurs, en dehors de mon métier. Et on a monté une petite équipe pour faire un trail. C'est une longue distance, une course qui fait 70 km dans la région. Et on monte une équipe avec des membres de l'association dont je fais partie. C'est un rassemblement de dirigeants d'entreprise. Voilà, c'est assez convivial. Et dans cette équipe, il y a Jean, que je connaissais par ailleurs, parce qu'on s'était vu à l'association, on a des soirées. Je savais qu'il faisait un peu de sport, donc on fait ça. Et lui, il le fait en relais avec sa femme, à l'époque. Donc on fait un bout de chemin ensemble à ce moment-là. Et surtout, au petit matin, il me ramène. Enfin, je me souviens de ça. On partage la même voiture. Et on rentre ensemble. Voilà, donc je sais ce qu'il fait. Il est directeur technique et directeur industriel dans une entreprise qui se trouve dans la même région que la mienne. Voilà, ça se passe bien. C'est un gars super sympa. Un peu tête dans la lune. Ouais, c'est le souvenir que j'ai de lui, la première fois que je le vois. Voilà, mais très fiable, très carré. Et puis un peu sportif. Donc, on se voit régulièrement jusqu'à ce que j'apprenne par personne interposée. Tu sais pas ce qui arrive à Jean, non, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il va changer de sexe. Il va devenir une femme. Et il a commencé son processus. Alors évidemment, ça fait un choc. Enfin, pourquoi pas après tout, je suis assez ouvert d'esprit, mais je suis quand même assez surpris. Et puis ensuite, j'apprends que ça se passe mal dans son boulot. Alors, du coup, forcément, avec un truc pareil, je me tiens un peu au courant. Et je me souviens très bien, je demande à la personne qui m'a appris cette nouvelle si je peux l'appeler, prendre des nouvelles, parce que c'est manifestement une période difficile de sa vie, puisque forcément, ça inclut son divorce, ça, c'est évidemment. Moi, de mémoire, je laisse peut-être un message en disant, bah, écoute, voilà, si je peux faire quelque chose pour toi, mais pas en tant qu'avocat, hein, d'accord? C'est plus l'ami de course à pied, le pseudo-copain ou le qui appelle en disant « n'hésite pas ». Voilà. Ouais. Elle me téléphone. Je ne vous dirai pas que j'ai reconnu sa voix parce qu'elle a pris des hormones pour l'adoucir naturellement. Donc, mais les expressions sont les mêmes. Et le petit rire, c'est le même qu'avant. Voilà. Donc ça, je ne suis pas dépaysé. Donc on fait un rendez-vous très vite. J'ouvre la salle d'attente. Je la vois. Et je ne vais pas vous dire « j'en reviens pas », mais c'est vrai que je ne l'avais pas vue depuis au moins 2 ans. C'était un homme, c'est une femme, ça fait quand même un choc, mais néanmoins, les traits du visage sont presque les mêmes. Moi, je le reconnais tout de suite, tu vois. Elle est déjà une femme dans les apparences. Elle a les habits d'une femme, elle a des cheveux longs parce que ça, elle s'est poussée il y a un petit moment. Elle doit mesurer 1m78, donc plutôt élancée. Le grain de peau assez fin, elle a beaucoup d'allure. Je lui dis comment vas-tu, je fais la bise et voilà, c'est parti. Et pour moi, il n'y a aucune appréhension. Enfin, si l'appréhension, c'est que j'ai toujours peur de la masculiniser. Donc je fais hyper gaffe à ce que je dis, parce que j'imagine que pour elle, c'est hyper important. Et je ne me suis jamais planté. Et je me suis pas. Là, évidemment, ce qui m'aurait fait mal, c'est de me planter pendant la plaidoirie. Parce que là, ça aurait été horrible. Et parce que l'enjeu n'était pas pareil. À la rigueur, je me trompe devant elle, elle me pardonnerait. Mais je ne me suis trompé ni devant elle, ni devant les juges. Et donc je suis très fier de moi. Donc elle m'explique la dégradation de ses conditions de travail, comment ça se passe concrètement, voilà ce qui se passe. Elle est ingénieure, enfin il est ingénieur et elle l'est restée. Les compétences sont exactement les mêmes, c'est le regard sur elle qui a changé. Donc la stratégie a été de montrer que la dégradation des conditions de travail et la modification du contrat imposé par l'employeur étaient liées au processus de changement de sexe. C'est-à-dire que avant que Jean annonce qu'il allait devenir Patricia, tout se passait bien, et à partir du moment où il l'a annoncé, les problèmes ont commencé. Alors que c'est la même personne qui fait le même boulot avec les mêmes collaborateurs, les mêmes supérieurs hiérarchiques. Et je me souviens très bien de la tentative de conciliation où on entre dans la salle et les juges ne connaissent pas les dossiers avant. On arrive et en fait, quand j'ai saisi le conseil de prud'homme, elle n'avait pas changé d'état civil. Donc c'était Jean. Et je m'amène au conseil de prud'homme avec Patricia. D'accord ? Donc pour éviter que les juges ouvrent des yeux comme des soucoupes et qu'il y a peut-être un problème et que ma cliente le prenne mal, je vais voir le greffier. Je lui dis, écoutez, voilà la situation, mon client a changé de sexe, donc soyez pas surpris. Si vous pouviez dire 2 mots au juge pour que ça se passe correctement, oui, pas de problème. Et le greffier, je me souviens très bien, après, il est venu me voir. Il me dit, vous savez, maître, si vous m'aviez pas dit qu'auparavant c'était un homme, je m'en serais pas rendu compte. Et j'ai évidemment répercuté le compliment à Patricia parce que je trouvais que c'était vraiment formidable. Donc, On rentre dans la salle de la conciliation, les deux juges, le greffier sont là, et on rentre à quatre, c'est-à-dire les deux avocats et les deux parties. Alors, autant vous dire que l'ambiance est un peu tendue. J'expose la situation que je viens de vous expliquer, et l'employeur dit non, non, mais pas du tout, insuffisance professionnelle, enfin, il nie complètement la situation, mais je m'attendais pas à autre chose. Ce qui fait que finalement, nous plaidons le 23 février 2015. Donc j'ai tout un tas d'exemples concrets pour leur montrer que il y a un avant et un après, manifestement, et que on voit pas pourquoi Patricia aurait été moins bon que Jean professionnellement. Ça s'explique pas autrement que par l'attitude de son employeur. Donc peut-être que je plaide 45 minutes, l'adversaire peut-être 35. Toujours est-il qu'on a la décision le 26 octobre. Et je m'en souviens très bien, je vais vous dire pourquoi. Je suis en train d'essayer des chaussures de course à pied. C'est un mercredi. Et puis mon téléphone sonne, et c'est l'AFP qui me dit « Maître Robillard, la décision, qu'est-ce que vous en pensez ?» Mais je ne sais rien, parce que je ne l'ai pas eu. Et en même temps, je vois que j'ai un SMS de Patricia, qui me dit « Ah, t'as vu la décision, c'est très bien. » Je rentre au cabinet, je lis le jugement, et je vois qu'ils ont annulé le licenciement, mais pas du tout pour le motif qu'il y aurait un lien avec le genre. Pas du tout. Non, ils disent l'insuffisance professionnelle, ça tient pas. C'était un bon professionnel avant et c'est une bonne professionnelle après. Mais ils disent pas que c'est lié. En revanche, les dommages et intérêts, 30 000 euros, ils disent que ça c'est lié. C'est ce qui fait la particularité de la reconnaissance des droits de Patricia. Voilà, ça nous a rapprochés. Et puis maintenant on se revoit, voilà. Et puis maintenant c'est une femme, quoi. Donc, et en même temps, moi c'est... Je veux dire, c'est mon copain, enfin, vous voyez, je veux dire ma copine, mais c'est pareil. Non, mais c'est pas une faute, je fais exprès. C'était mon copain, c'est ma copine, voilà, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. It's silent in early
morning. C'était J'étais un homme parfait, reportage de Leïla Djitli, réalisé par Emmanuel Geoffroy et diffusé pour la première fois le 31 août 2016. Merci à Yael Mandelbaum pour cette rediff, à Patricia, à Maître Robillard et à tous ceux et celles qui ont aidé et soutenu Patricia dans sa transformation. Ils se reconnaîtront. Hélas, nous n'avons pas de nouvelles d'elle. Si elle s'entend, si elle nous entend, eh bien qu'elle nous en envoie, ça nous fera plaisir. C'est Camille Richir, la stagiaire des Pieds sur Terre, et Jeanne Delecroix, l'attachée de production. To the